Je vous propose de reprendre. Alors, j'ai invité aujourd'hui Éric de Chassé pour aborder justement un aspect de cette année 1965-1966 que je suis bien incapable de traiter moi-même. Il y en a beaucoup que je suis incapable de traiter, mais ce sont les arts plastiques. Que se passe-t-il de ce côté-là ? Éric de Chassé est donc un historien de l'art. Il est professeur à l'université de Tours, mais en ce moment, il est directeur de l'Académie de France à Rome, et il arrive donc de Rome. Il a travaillé sur la peinture américaine, avec un livre important sur l'abstraction américaine de 1910 à 1960. Et ses travaux ont surtout porté sur la peinture américaine, mais aussi sur les rapports entre la peinture américaine et la peinture globale, comme il faudrait dire aujourd'hui, du début du XXe siècle à aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'ai pensé qu'il était l'invité le plus approprié pour nous parler de cette année, et il a proposé comme titre « Peinture critique, peinture politique, la jeune peinture française en cette année 1966 ». Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Il faut le dire d'emblée, l'année 66 n'est pas une année remarquable pour l'histoire de l'art français. Surtout si l'on pense, je pourrais dire en citant quelqu'un d'autre, ce n'est pas comme dans d'autres domaines une année magique. Surtout si l'on compare ce qui s'y passe avec ce qui s'est passé la même année, en particulier aux États-Unis. Et pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ça, je vous montre juste quelques expositions qui ont lieu à New York cette année-là. L'exposition Primary Structures au Jewish Museum, l'exposition Eccentric Abstraction dans une galerie, à la galerie Fischbach, ou encore, donc, l'exposition Primary Structures étant l'exposition qui définit le minimalisme, l'exposition Eccentric Abstraction étant l'exposition qui, la même année, définit ou annonce le post-minimalisme, et l'exposition Art in Process, qui est la première grande exposition à New York, qui définit le mouvement de l'art conceptuel. Dans ces trois expositions, qui sont trois expositions centrales de la scène artistique américaine, il faut d'ailleurs dire qu'il n'y a pas un seul Français, contrairement à ce qu'on a pu voir l'année précédente encore, en 1965, dans la grande exposition du MoMA, The Responsive Eye. En vérité, je crois que si ça n'est pas une année remarquable, ça n'en est pas moins une année intéressante, dans la mesure précisément où c'est une année de transition. Je voudrais en faire aujourd'hui un panorama le plus exhaustif possible, dans un temps assez bref évidemment, qui permettra peut-être de dégager quelques tendances principales, de comprendre comment finissent d'y mourir des tendances présentes depuis longtemps, et comment s'y dessinent peut-être, sans illusion d'anticipation, les principales tendances qui définiront la fin des années 60 et la décennie suivante. Pour le dire globalement et simplement, le milieu de l'art français est en 1966 sous le choc massif de la Biennale de Venise de 1964. Quelque chose que l'on a du mal aujourd'hui sans doute à estimer comme une chose particulièrement importante, c'est-à-dire à l'attribution, dans le cadre de cette grande compétition internationale de l'art contemporain, de l'attribution du Grand Prix de la Biennale, non pas à un Français, mais à un Américain, Robert Rauschenberg, qui est par ailleurs un Américain qui a beaucoup de liens avec la France, mais cela, à ce moment-là, on l'oublie très largement. La France, elle, était représentée notamment par Roger Bissière, et je pense qu'une simple comparaison de l'un et de l'autre permet de comprendre ce qui pouvait éventuellement se jouer. Il faut dire que la France avait pris l'habitude de recevoir ce Grand Prix du jury, puisque de 1948, année du retour de la Biennale de Venise à 1962, ce ne sont pas moins de 12 grands prix sur 16 qui ont été attribués à un artiste, sinon français de nationalité, du moins parisien, Hans Hartung en 1960, Alfred Mansier en 1962, pour prendre les deux derniers. Dans un article pour la revue Planète, qui s'intitule « Paris n'est plus roi », paru en octobre-novembre 1964, le critique Pierre Restany en tire d'ailleurs un bilan. À en croire la presse artistique, Paris, victime d'une machination mondiale, a été trahi. Un coup irrémédiable a été porté à l'art français et, à travers lui, à l'ensemble de la culture occidentale. Pourquoi cette vague d'indignation ? Parce qu'un jeune artiste américain, Robert Rauschenberg, a reçu le Grand Prix de peinture de la Biennale de Venise. « Voilà où nous en sommes, dit-il un peu plus loin. Paris manque de ressort, il fait de plus en plus province. » Donc cette fois-ci, il passe à son propre point de vue. Ces grands débats esthétiques, les grands débats esthétiques de Paris, sombrent dans les querelles de clochers. Il désapprend peu à peu à voir grand, il se replie et s'isole dans un contexte international en radicale évolution. Force nous est de constater qu'entre septembre 1963 et octobre 1964, les grands événements de l'art se seront déroulés en dehors de Paris, continue Pierre Restany. Il y a en fait, à mon sens, une sorte de paradoxe, mais peut-être qu'il faudrait revenir sur ce paradoxe dans d'autres circonstances. Après des années de relative négligence par les autorités, l'abstraction est en effet devenue à ce moment-là, la peinture abstraite, de façon très singulière en France, comme école de Paris, ce qu'on pourrait appeler un art officiel de la France. Parmi les plus ou moins jeunes peintres qui sont alors célébrés, on trouve même le frère d'un premier ministre du général de Gaulle, Olivier Debré, ce qui veut dire à quel point on va dans le sens de cette officialisation, ce qui n'empêche pas les qualités propres de cette peinture, c'est une autre question. Et l'on voit dans les journaux que le premier ministre en exercice, Georges Pompidou, vit et travaille depuis sa nomination en 1962, et vraisemblablement encore, je n'ai pas pu vérifier depuis Rome, depuis sa nouvelle nomination en janvier 1966, avec des œuvres de Pierre Soulages ou de Victor Vasarely. Ce tableau-ci est le tableau qui se trouvait à la demande du Premier ministre dans son bureau en 1962. Il appartient aux collections nationales et donc aujourd'hui au Musée national d'art moderne. L'œuvre de Vasarely est une œuvre, pour ainsi dire ici, qui fait office d'œuvre générique. Quant à Vasarely même, son triomphe ou son officialisation se manifeste dans le fait que, en 1965-1966, c'est lui qui est chargé de décorer les tout nouveaux bâtiments de la Faculté des sciences de Jussieu. En parlant de cette forme d'officialisation, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de vie chez ces artistes, pas de choses intéressantes qui pourraient s'y passer, mais simplement que, désormais, cette officialisation va de pair, parce que ce sont des artistes qui se situent dans le courant moderniste qui pense l'opposition à la société, va de pair pratiquement naturellement, et c'est ça la résolution du paradoxe, avec le fait qu'ils semblent appartenir au passé. C'est même le cas de quelqu'un comme Debré. C'est certainement pour cette raison qu'il n'y a pas ou presque pas d'artistes français dans les grandes expositions bilan qui ont lieu sur l'abstraction cette année-là de façon internationale. Ainsi, l'exposition Vormen van den Kleur qui a lieu au Stedelijk d'Amsterdam en 66, puis qui voyage à Stuttgart et à Berne, ne comporte-t-elle comme artiste français que Vasarely, et on pourrait citer d'autres exemples. Le principal reproche qui est fait à cette peinture abstraite désormais devenue peinture officielle de la France, c'est son rapport à la nature par opposition à ce que, en particulier, les Américains, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont pu mettre au point dans le cadre de l'expressionnisme abstrait. Ce qui est rejeté, c'est le fait que la plus grande partie de cette peinture repose sur un rapport essentiel et essentialiste à la nature. Et c'est sans doute pour cela que Soulages est l'un des rares à échapper en partie à cette critique, malgré cette position officielle, je dirais. En témoigne par exemple le fameux procès à Soulages qui est publié dans la revue des jeunes intellectuels communistes Clarté en 1962, qui est à la fois un procès mais aussi une défense. En témoigne aussi le fait que c'est lui qui, comme artiste français, bénéficie en 1966 au musée de Houston, aux États-Unis, d'une rétrospective personnelle particulièrement importante qui précède d'un an celle qui lui sera consacrée par le Musée national d'art moderne en 1967. Si j'insiste sur cet aspect, c'est parce que dans la crise que connaît alors l'art français et qui va durer longtemps, dont nous ne sommes peut-être pas encore sortis, ou peut-être sortis seulement depuis peu, la question, pour ainsi dire sociologique ou politique, occupe le premier plan d'une manière qui n'est pas caractéristique de la seule, des seuls arts visuels, on l'a vu largement au cours de ce cours, mais qui, dans ce cadre-là, prend un aspect important. Quelques années auparavant, la contestation de l'hégémonie des valeurs portées par l'École de Paris s'était exprimée au sein du nouveau réalisme, parfois sur un mode qui peut continuer à être un mode très largement ironique, apparu au public à l'occasion de la Biennale de Paris de 1959, où Raymond Hens, François Dufresne et Jacques Villeglé exposaient au sein même de la section informelle, c'est-à-dire à l'intérieur même d'une section stylistiquement consacrée à l'abstraction dont je viens brièvement de parler. Le critique Pierre Restany, que j'ai déjà cité, à l'époque encore fonctionnaire du gouvernement, rédacteur de discours, avait insisté dans les textes qu'il consacrait aux nouveaux réalistes sur un changement fondamental d'inspiration. Il écrit par exemple dans un texte de 1961 qui s'appelle « La réalité dépasse la fiction » ce que nous sommes en train de redécouvrir, c'est un nouveau sens de la nature, de notre nature contemporaine, industrielle, mécanique, publicitaire. Les paysages d'Arcadie sont désormais refoulés dans les zones les plus mythiques de notre vision. Ce qui est la réalité de notre contexte quotidien, c'est la ville ou l'usine. L'extroversion est la règle de ce monde placé sous le double signe de la standardisation et de l'efficience. L'appropriation directe du réel est la loi de notre présent. Si je cite ce texte de 1961 pour comprendre ce qu'il en est en 1966, c'est pour dire que forcément, si ce que les critiques et les jeunes artistes rejettent de l'École de Paris, c'est son rapport à la nature, il est évident qu'ils ne peuvent rejeter que, dans une certaine mesure, cette nouvelle nature qui peut préexister et qui peut exister comme modèle dans le cadre du nouveau réalisme. En réalité, en 1966, le nouveau réalisme lui-même est en crise. Si Dufresne, Hens et Villeglé continuent bien leur travail d'affichiste, si Armand continue bien ses accumulations, Yves Klein, lui, est mort depuis longtemps, Daniel Spéry s'arrête cette année-là, en 1966, de créer ses tableaux pièges pour prendre du recul, et l'une des dernières œuvres qu'il fait par cette méthode de l'assemblage avant longtemps, c'est ce « Ça crève les yeux que ça crève les yeux », qui est évidemment très emblématique. César remplace le référent industriel de ses compressions par une imagerie plus ludique, parfois autobiographique, comme dans le cas de son pouce, qui est le clou du Salon de mai 1966 et de la rétrospective qui a eu lieu cette année-là au musée de Marseille. Et quant à Martial Reiss, s'il reçoit cette année-là le prix David Bright pour les moins de 45 ans à la Biennale de Venise, ce qui minore le scandale affiché avec Rauschenberg d'ailleurs, grâce à son œuvre Nice-Venise, cette même année, il met fin au style coloré qui caractérise sa première période et dont Noon Mediterranean Landscape, au titre explicitement américain, manifestant un basculement de l'autre côté de l'Atlantique, de l'ambition même de Martial Reiss dans ces années-là, dont Noon Mediterranean Landscape est en 1966, sinon le dernier exemple, du moins un des derniers exemples. La génération des nouveaux réalistes avait clairement perçu l'enjeu des transformations de la société française de l'après-guerre, mais en choisissant de se porter sur le seul environnement urbain et industriel, en même temps qu'ils évitaient en général le champ de la peinture. Il incombe donc à la nouvelle génération de s'affronter plus radicalement à ces problèmes. La polarisation de la vie politique oblige, par ailleurs, à des choix beaucoup plus radicaux que les ambiguïtés du nouveau réalisme, d'une façon telle que, du même coup, il n'est pas nécessaire de prendre conscience des enjeux sociologiques des pratiques artistiques pour s'y inscrire. Pour résumer, en 1966, en France, parmi les jeunes artistes qui apparaissent dans ces années-là, trois positions principales étaient possibles. La première consistait à s'inscrire pleinement dans le nouvel environnement urbain et sociologique et à s'en faire le critique lisible, explicite. C'était le parti de la figuration critique ou narrative, aussi bien que celle du groupe de recherche d'art visuel. La deuxième conduisait à prendre formellement en compte les conséquences de l'urbanisation, c'est-à-dire la dépersonnalisation et la spécialisation sans production de sens, ce que firent, à partir de 1966, les membres de ce qui allait devenir, au tout début de l'année 1967, le groupe, qui n'a jamais été un groupe formellement complètement, BMPT. La troisième position consistait enfin à affronter la réalité nouvelle, sans en privilégier seulement ce que le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas appellerait dans son programme d'investiture de 1969 la nouvelle société, mais en prenant en compte les réalités diverses de la ville et de la campagne, en mêlant par conséquent dépersonnalisation et subjectivisme, objectivité et plaisir. À moins de penser, et c'est une quatrième position possible, qui se trouve en dehors de la peinture, qu'il fallait se situer tout à fait sur un autre terrain, celui du refus de l'art au profit de la vie, comme le firent de façon très différente les situationnistes parisiens et strasbourgeois, ainsi que la nébuleuse Fluxus française, particulièrement active sur la Côte d'Azur. Ce sont finalement ces trois positions plus une que je voudrais développer maintenant. Première possibilité, épouser et critiquer en même temps de l'intérieur la société marchande et industrielle. En 1964 apparaît sur la scène parisienne un mouvement qui va chercher pendant quelques années son nom et qu'on appelle aujourd'hui généralement figuration narrative. Elle apparaît à l'occasion de l'exposition Mythologie quotidienne organisée par le critique Gérald Gassiot-Talabo avec des artistes comme Arroyo, Clazen, Monory, Rancillac ou Télémaque. Gassiot-Talabo écrit dans le catalogue de Mythologie quotidienne, donc en 64, à la dérision statique du pop américain, c'est déjà une première indication importante, désormais les artistes de Paris se situent à partir d'une situation américaine, ils opposent, je continue la citation, tous la précieuse mouvance de la vie cernée dans la continuité ou dans l'un de ces moments privilégiés. Ils réintroduisent tous le sens de la durée dans le contexte pictural. En septembre 1965, à l'occasion de l'exposition « La figuration narrative dans l'art contemporain », le mouvement reçoit son nom, « Figuration narrative ». Et dans cette exposition, le mouvement signe également son opposition à une certaine histoire de l'art français et à une certaine histoire de l'art américain également. Le point de vue est encore une fois celui des États-Unis. Trois artistes de cette tendance, Gil Ayo, Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati, réalisent une série de tableaux sur la fin tragique de Marcel Duchamp, qui commence par le succès de Scandale de Duchamp aux États-Unis, le nu descendant l'escalier, puis à l'enterrement de Marcel Duchamp, qui n'est pas encore mort, il mourra en 1968, de Marcel Duchamp sous bannière américaine, essentiellement par des artistes américains. On retrouve en porteur de cercueil en première ligne à gauche le Robert Rauschenberg du Scandale, mais on retrouve aussi des Français vendus aux Américains, à droite avec sa moustache le critique Pierre Restany, et juste avant Andy Warhol reconnaissable à ses lunettes, l'artiste Martial Reis. Entre-temps, Marcel Duchamp, vieillard, a reçu des coups de poing musclés de la part des trois artistes qui se sont auto-représentés dans le troisième et le cinquième et le septième tableau de la série. En janvier 1965, cette tendance, celle de la figuration narrative, prend le pouvoir dans une institution parisienne qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas eu une grande importance, qui est le Salon de la Jeune Peinture. C'est encore un moment où le milieu de l'art français est dominé essentiellement par ce système des salons, plutôt que par le système des galeries, même si c'est un moment de basculement. Au Salon de la Jeune Peinture, ils présentent ensemble une sorte de manifeste, la salle verte, avec des tableaux de 2 mètres par 2 mètres, tous employant uniquement cette couleur verte, avec la volonté de procéder à ce que l'artiste Eduardo Arroyo, dans le catalogue qui accompagne le Salon de la Jeune Peinture, appelle un aimable carnage. L'année suivante, les mêmes, et d'autres comme Bernard Rancillac, sont le centre du Salon de la Jeune Peinture, et leur peinture est elle-même de plus en plus explicitement politisée. Vous voyez que pour l'année 65, ils s'en prennent à l'histoire de l'art et à la situation contemporaine de l'art. En 66, un tableau comme le Dîner des collectionneurs de tête est à la fois, de la part de Rancillac, une attaque contre le système actuel de l'art, celui qui renvoie à la possession des œuvres d'art, y compris primitives, par la bourgeoisie, mais également une attaque explicitement politique avec ces panneaux mobiles qui dévoile les visages de Frantz Fanon ou de Malcolm X. Le bulletin de la Jeune Peinture précise, en 1966, en ayant l'air de n'attaquer que la sensibilité sous sa forme la plus désuète, on portait atteinte à l'idée générale que la réussite d'un tableau repose sur le respect d'un équilibre des contrastes, d'une juste proportion des valeurs et des couleurs. Donc c'est l'affirmation de la part de ce petit groupe du primat du sujet et, je le dis encore, en cette année de révolution culturelle chinoise, du sujet très explicitement politisé. Ce qui conduit une partie de la critique à rejeter très violemment cette forme de peinture qui reprend les techniques mêmes de l'imagerie de propagande ou de l'imagerie publicitaire, c'est selon. Je cite le critique Georges Boudaille, proche du Parti communiste, ces œuvres n'apportent rien à leur auteur, puisqu'en l'état actuel des choses, il est presque impossible de distinguer les productions de l'un ou de l'autre. Cet anonymat est celui des auteurs d'étiquettes de boîtes de conserve. Il n'a rien à voir avec le mouvement de foi qui animait les artisans de nos cathédrales. Forcément, puisque les cathédrales qu'ils veulent bâtir sont d'un tout autre ordre. En un certain sens, on peut dire, je propose de dire, que les actions et les œuvres proposées par les membres du GRAVE, c'est-à-dire le groupe de recherche d'art visuel fondé en juillet 1960 par Horacio Garcia Rossi, par Julio Leparc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et Ivaral, répondent avec les moyens propres à l'abstraction aux mêmes préoccupations. Ils font certes des œuvres d'art au sens traditionnel du terme, qui s'inscrivent dans la lignée de l'abstraction géométrique telle qu'elle a pu être très visible avec des artistes comme Vasarely au sein du mouvement cinétique, mais celles-ci supposent toutes, bien plus que celles qui les anticipaient dans les années 50, une nouvelle définition des rapports entre l'œuvre et le spectateur, une définition critique, le spectateur étant désormais invité à être un acteur à part entière. Pendant les premières années, les artistes du GRAVE ont mis en place des événements qui faisaient des œuvres d'art des éléments d'une situation dynamique qui conduisait à une redéfinition de l'espace réel et qui proposait du coup une nouvelle manière d'envisager la vie dans l'environnement urbain. C'est ce qu'ils font encore en 1966, à l'occasion de leur participation à l'exposition Kunstliche Kunst, qui a lieu à Eindhoven et où ils voisinent avec les tenants du cinétisme, comme Agam, comme Schoeffer ou comme Takis. Mais c'est cette année-là surtout qu'ils portent pour la première fois leurs activités dans l'espace public, quelques années avant leur dissolution, puisque le groupe sera dissous en 1968. Le 19 avril 1966 exactement, le GRAVE organise à Paris une journée dans la rue, qui a valeur d'élément manifeste et dans laquelle les œuvres ne sont cette fois-ci rien d'autre que des éléments d'une animation de la rue, comme on peut le voir aussi bien dans l'installation de Dalle mobile de Julio Leparc que dans celle de Structure instable d'Ivaral. Un dépliant est d'ailleurs distribué aux passants un petit peu partout dans Paris, qui précise le programme du grave. Je vous lis juste une toute petite partie du dépliant. Il s'efforce, le grave, de créer une situation nouvelle où ne serait plus seulement en présence l'artiste unique et son œuvre inspirée, où il n'aurait plus en face de lui des spécialistes plus ou moins enthousiastes et un vaste public indifférent. Un peu plus loin, dans le réseau des faits répétés et retrouvés d'une journée de Paris, nous voulons mettre une série de ponctuations délibérément orchestrées. La vie des grandes villes pourrait être bombardée de façon massive, non pas avec des bombes, mais avec des situations nouvelles sollicitant une participation et une réponse de ses habitants. Ce dépliant expliquant la manifestation est d'ailleurs accompagné d'un questionnaire que les passants sont invités à remplir, donnant leur point de vue sur les activités auxquelles ils viennent de participer. Deuxième manière d'envisager le rapport au social et au politique, et donc de faire de l'art ou de faire de l'art visuel de ce point de vue-là, celui qui consiste à refuser l'image, à faire à nouveau de la peinture, voire même de la peinture abstraite, mais en prenant en compte, dans une réflexion antérieurement politique, les conséquences de la division du travail telle que celle-ci peut exister dans la société industrielle et capitaliste. Au sein du Salon de la Jeune Peinture, l'édition de 1966 voit en effet l'apparition d'une abstraction critique. Depuis juin 1965, année où a commencé à être publié le bulletin d'information de la Jeune Peinture, sont publiées conjointement aux positions de la tendance de la figuration narrative, celle d'un des représentants de l'abstraction critique, autrefois associé, membre des jeunesses communistes, qui a été l'un des instigateurs du procès Clarté à Soulages en 1962, Pierre Buraglio. Le premier bulletin, donc celui de juin 1965, insiste sur, je cite, « la nécessité d'en finir avec ces lois soi-disant fondamentales qui commandent la structure de l'œuvre d'art et qui ne font en réalité que maintenir depuis des années la peinture dans le domaine rhétorique du langage des formes et des couleurs, hors du temps, dans l'univers indéterminé des notions culturelles. » On peut avoir l'impression, à entendre ce passage ou à le lire, qu'il émane d'une position qui est celle de la figuration narrative. Or, il n'en est rien. C'est un passage qui émane d'une position qui est celle de la défense de l'abstraction. En 1967, le bulletin précisera « Ainsi seulement, nous pouvions montrer qu'en tant que peintre, nous entendions nous mêler de ce qu'on voudrait nous faire croire qui ne nous regarde pas, c'est-à-dire des affaires du monde et non des formes et des couleurs. » Position compliquée que celle dans laquelle se mettent ces artistes, faire de la peinture abstraite, sans image, et pourtant la faire au nom d'une position politique et avec une volonté politique, critique et sociale. La première opération à laquelle, dans une certaine mesure, les artistes se limitent encore en 1966, c'est la déconstruction critique du tableau et de la peinture, très visible chez les jeunes peintres abstraits qui exposent au Salon de la Jeune Peinture de 1966, c'est-à-dire Pierre Buraglio, qui procède par recouvrement systématique d'œuvres antérieures ou d'autres objets, de Daniel Buren, de Michel Parmentier, de Neil Toroni en particulier. Tous artistes qui sont passés vers 1963 dans un atelier particulier de l'École des Beaux-Arts de Paris, celui de Roger Chastel. Tous artistes qui ont également été marqués par la confrontation, directe ou non, avec l'art américain de l'après-guerre et en particulier par l'expressionnisme abstrait. Dès 1966, Buraglio procède à une redéfinition complète de son travail de peintre qui consiste à reprendre les objets et à en faire autre chose, en l'occurrence à découper les toiles qu'il a précédemment peintes, non pas à les servir dans la rue comme les faisaient les affichistes, mais à prendre sa propre production, à la déconstruire et à reconstruire un autre tableau avec. Dans le bulletin du 17e Salon de la Jeune Peinture, en 1966, il écrit, ou il aurait dû écrire, parce que le texte a été finalement refusé par le comité de rédaction, donc on en a aujourd'hui le brouillon qui a été publié, « Il s'agit d'aggraver la réalité, non de l'édulcorer. Il faudrait admettre que la mise entre parenthèses du monde n'est pas sa mise à l'abri, et que d'autre part, la peinture doit être subversive pour être, sa subversion s'exerçant d'abord à l'égard d'elle-même, la peinture devant se détruire pour se reconstruire. » Rhétorique à laquelle je suppose qu'à ce moment-ci de l'année, vous êtes très largement exposé. Buren vient lui aussi de l'abstraction lyrique, de ces tendances que j'ai évoquées comme étant passées de mode dans ce milieu des années 60, quand bien même il aurait pu par la suite et depuis reconstruire son parcours en laissant penser qu'il était uniquement passé par l'expressionnisme abstrait américain. Ce qui se passe chez lui au cours de l'année 1965, à partir d'une expérience d'ailleurs américaine, c'est l'insistance sur la manière de produire une peinture abstraite qui soit le plus explicitement possible en lien avec l'extérieur, avec le monde de la consommation, avec le monde social et politique. À partir de 1965, non sans rapport, mais c'est une incise sur laquelle je ne vais pas insister, avec ce qu'avait pu faire Matisse dans ses papiers découpés, il travaille avec du tissu acheté dans le commerce plutôt que de la toile pour tableau traditionnelle. Vous en avez ici un exemple, d'abord très baroque et très exubérant, qui consiste simplement à découper avec la peinture, à inscrire une forme avec la peinture sur un motif décoratif qui est trouvé, emprunté donc à la culture populaire. Pendant l'année 1965, il se met à simplifier le matériau de départ et trouve en particulier des tissus à bandes qu'il achète dans le commerce et que, pendant un certain temps, il va traiter comme élément pour des recouvrements, soit avec du papier d'argent, soit avec de la peinture blanche, en laissant encore une composition extrêmement visible. À l'automne 1966, il choisit au marché Saint-Pierre, là où il a pour l'instant acheté l'ensemble de ses tissus, les tissus les plus ordinaires qui soient, c'est-à-dire des tissus rayés de bandes blanches et d'une autre couleur, alternées et verticales, décide de se limiter désormais entièrement à ce seul motif, à ce qu'il appelle son outil visuel, à ne plus choisir que des tissus dont le motif soit des bandes de 8,7 cm chacune, et à ne plus peindre, à ne plus recouvrir de peinture que les deux bandes extérieures, comme on le voit encore assez nettement, et de moins en moins, me semble-t-il, dans cette œuvre qui est une des toutes premières du mois de novembre 1966. C'est parce qu'elle a en fait beaucoup vieilli qu'on le voit plus explicitement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette utilisation de l'outil visuel, mais je le signale simplement en passant. Cette même année, l'un de ses plus proches amis, Michel Parmentier, commence à peindre, lui, des bandes horizontales sur des tissus de récupération, parfois de la toile à matelas, en pliant la toile et en rejetant l'utilisation du pinceau, progressivement, au profit de la bombe. Au cours de l'année 1966, même opération de réduction complète, le choix de ne plus travailler donc qu'avec la bombe, qui enlève toute facture manuelle, et d'élire une couleur par année, l'année 1966 étant donc l'année bleue. La même année encore, les deux artistes rencontrent Neil Toroni, artiste suisse installé à Paris, qui, à ce moment-là, produit des tableaux depuis l'année 1965 qui consistent à recouvrir une partie des motifs de plaques de linoléum avec des motifs décoratifs, soit à inventer un motif complètement, soit simplement à le recouvrir, c'est-à-dire à travailler sur un motif qui est celui des motifs décoratifs qu'on peut trouver dans l'ameublement de café ou d'habitation ordinaire. Pendant l'année 1966, il y a une forme d'émulation, vous le comprenez tout de suite, entre eux. Torrigny décide de ne plus élire qu'un seul moyen, les touches de pinceau de 50, avec toujours le même espacement, sur toile, d'abord avec un fond assez expressif, relativement expressif, en tout cas dans lequel on voit la trace du pinceau, puis bientôt seulement sur fond blanc ou sur n'importe quel support. La même année encore, les trois font la rencontre d'Olivier Mosset, autre jeune artiste suisse, qui avait été jusque à ce moment-là l'assistant de Jean Tinguely, un des membres du Nouveau Réalisme, qui, au début de l'année 66, fait des toiles qui sont toutes identiques, sinon par leur dimension, portant simplement la lettre A comme première lettre de l'alphabet, mais aussi comme symbole dérivé de l'anarchisme. Pour lui, c'est un geste politique. Et qui, pendant l'année 1966, avant ou après sa rencontre, les faits sont controversés, va se limiter pendant un certain nombre d'années à ponctuer des toiles carrées de ronds de 15,2 cm de diamètre, qui sont donc ensuite sur des toiles de tailles différentes. Lorsque les quatre se rencontrent, ils décident de créer une entité collective, de créer des manifestations collectives, formant ce qu'on va appeler le groupe BMPT, improprement. Et donc c'est une décision qui est prise à la fin de l'année 1966 et qui procède à un véritable taylorisme de la peinture, puisqu'ils se partagent les constituants du tableau, les constituants minimum élémentaires du tableau, pour ne plus répéter inlassablement que ce geste-là, ou ne même pas le répéter, puisque si leur première manifestation est l'exposition collective au Salon de la Jeune Peinture de 1967, le Salon de la Jeune Peinture a lieu chaque année au mois de janvier, la deuxième, accompagnée d'un tract, dont vous avez ici la copie, la deuxième manifestation, à la fin de la journée, à 20h15, consiste à décrocher leurs œuvres et à simplement rajouter à la mention de leurs quatre noms, n'expose pas. Répétitivité, neutralité de la forme, réduction, mais en même temps une certaine forme d'ambiguïté. Dans le moment où ils le disent « nous ne sommes pas peintres », ils disent également, dans un des tracts suivants, la troisième manifestation, « la peinture » commence avec Buren, Mosset, Parmentier, Torrigny. Troisième position, celle qui, sur les mêmes brisées en quelque sorte au départ que celle de BMPT, rajoute ce que j'appellerais un facteur plaisir, en tout cas cherche à donner encore quelque chose à voir qui a à voir avec un certain plaisir visuel, et qui sera ensuite dans les textes qui vont venir petit à petit accompagner ces productions, qui sera ensuite accompagné d'emprunts à la psychanalyse et d'emprunts à une sorte de marxisme vulgarisé, notamment dans l'entourage de Tel Quel, ou marxisme maoïste de plus en plus, donc qui est une position qui va donner naissance à partir de 1969 au groupe Support Surface. Je vais parler simplement de ce qui se fait en 1966. Buren et Parmentier exposent en 1966 à la Galerie Jean Fournier dans l'exposition Pour un triptyque. Là, ils retrouvent l'une des influences majeures de cette troisième tendance, Chimon Antaille, qui, à partir des années 60, a choisi d'aborder la toile de manière nouvelle en procédant à ce que le critique Marcelin Plenet, le secrétaire de rédaction de Tel Quel, appellera une mutilation qualifiante. Il s'agit de brider les automatismes de l'œil pour livrer la peinture à la seule intelligence de la main et de la couleur, c'est-à-dire de procéder à un travail, mais un travail cette fois-ci non pas industriel, mais pré-industriel en quelque sorte, celui du labeur manuel. La toile est en fait uniquement par pliage, puis remplissement des parties laissées à vif, puis dépliage. Dans tout ça, Deleuze trouvera bien des matières à réflexion un petit peu plus tard. dont vous avez une trace dans cette vue de l'atelier de Hantaille en 1968, où on voit donc une toile de la série Main, enfin, des toiles de la série Main avant dépliage. L'importance de Hantaille réside pour cette génération, au moins en temps, dans l'attitude et la stratégie que dans les œuvres. Tous les artistes de BMPT que j'ai cités précédemment et tous les artistes dont je vais parler maintenant fréquentent très régulièrement l'atelier de Hantaille. Pour l'attention aux moyens manuels et matériels de la peinture et un nouveau rapport à l'œuvre qui se fait sur le mode de la production, donc soit comme un ouvrier dans le cas de BMPT, soit comme un paysan dans le cas que je vais évoquer maintenant. C'est le cas, par exemple, de François Rouen, qui avait prévu de participer à l'exposition Triptyque, et puis un certain nombre des artistes se sont opposés à sa présence, qui lui, à partir de 1965, sur un mode qui n'est pas sans rappeler celui que j'ai évoqué à propos de Buraglio, procède en découpant ses propres tableaux, puis en les retressant. Le tressage chez Rouen donnant lieu à un article particulièrement important de Lacan un petit peu plus tard. À Nice, un jeune peintre, Claude Viala, se sent alors suffisamment proche de ses travaux pour inviter ces artistes dont je viens de parler, avec le critique Jacques Lepage, à une exposition qu'il organise au musée de Céret et qui s'appelle Impact 1. Vous reconnaissez sur cette photographie une toile de Toroni. Viala lui-même, en 1966, réalise ses premières toiles où il utilise avec un pochoir cette forme spécifique, dit-il, en s'inspirant des textes des critiques américains, mais qui n'a rien à voir avec les critiques américains, et que Yves Michaud, dans un texte de 83, a essayé de définir comme osselet, fève, éponge, cellule, ou pourquoi pas dos dénudé de femme. En tout cas, un motif qui sert à ponctuer un champ. Je pense que c'est intéressant de se rendre compte que cette opération a lieu à Nice et non pas à Paris. Me retient surtout dans la manière de procéder de Viala la stratégie, pour ainsi dire, volontairement provinciale et primitive, choisie par celui-ci, dont la façon de travailler la peinture est exactement celle d'un paysan travaillant son champ. Et on pourrait faire, mais le temps m'étant compté, je ne le ferai pas, des parallèles tout à fait intéressants avec la description du travail paysan que fait exactement à la même époque Mindras dans son livre « La fin des paysans » qui sera publié au début de 1967. La méthode de ponctuation ou d'arpentage du champ ne se fait jamais de façon systématique, elle ne prend jamais de caractère industriel, même si elle se porte sur tous les supports possibles. L'attention aux spécificités du champ est malgré tout extrêmement forte. Je passe rapidement sur San Juan et j'en termine par cette quatrième position que j'évoquais comme étant possible et dont le parallèle serait sans doute à trouver dans le livre d'Henri Lefebvre de 66 Contre les technocrates, là non plus je ne le développerai pas, qui est d'une part celle des suites du situationnisme, avec encore publication abondante de psychogéographie, donc qui est la remise en cause de l'art au profit de la vie, ou pour citer l'artiste Robert Filliou, dont je vais montrer quelques images, cette conception qui consiste à dire que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc, suite des psychogéographies, dans le cadre d'un dépassement de l'art, qui a été proclamé par le situationnisme en 1961, d'abord sous la forme de directives secrètes, puis sous une forme plus explicite par Guy Debord lui-même, avec la réalisation de plusieurs directives peintes, paradoxe évidemment, dont celle de dépassement de l'art, et dont les conséquences se manifestent, me semble-t-il, dans l'utilisation d'images, mais cette fois-ci plus que d'images détournées, plus que d'images préexistantes, par les situationnistes strasbourgeois, et notamment par ceux qui ont fait de l'entrisme au sein de l'Association fédérative générale des étudiants de Strasbourg et qui publie à ce moment-là De la misère en milieu étudiant, etc. Cette manière de faire semble rejoindre les préoccupations de ceux qui veulent, à la suite de Rauschenberg, combler le fossé entre l'art et la vie, ceux qui pratiquent des happenings. Et j'avais décidé de centrer mon intervention sur la peinture, mais je ne voudrais pas oublier que 66, c'est aussi l'année du grand scandale des 120 minutes dédiées au divin marquis de Jean-Jacques Lebel à Paris, lié à la fois à la religieuse et à l'interdiction de la religieuse, mais aussi à un certain nombre de pratiques sexuelles, avec sur l'image de droite cette image du transsexuel Cynthia qui finira par se retourner et provoquer la stupeur du public qui entre-temps est passé par un couloir rempli de viande sanguinolente, qui a dû abandonner ses chaussures sur des tas, pour certains d'entre eux revêtir une étoile jaune, une espèce de grand mélange d'attitudes pré-politiques, pour ainsi dire, qui appelle un certain nombre de conséquences. Mais c'est surtout à Nice que cette manière de faire est, me semble particulièrement riche, en particulier autour de Robert Filliou, qui a mis au point en 1966 ses principes d'économie politique, qui consistent surtout à poser une théorie nouvelle de la valeur et un principe d'équivalence qu'il va formuler complètement en 1966, mais en 1968, pardon, mais dont les prolégomènes se trouvent dans les principes d'économie politique de 66, c'est-à-dire l'équivalence entre bien fait, mal fait et pas fait. Ce qui veut dire, évidemment, dans son cas, un rejet de la pratique artistique traditionnelle telle qu'elle peut exister. Cela signifie-t-il la mort de la peinture ? On a vu que non, pour les mouvements qui existent parallèlement à cette tendance qui veut aller au-delà de l'art, mais à l'intérieur même de cette tendance, on aboutit à des situations paradoxales. La présence de la peinture sous forme d'écriture autographe chez Ben, ami de Filliou, ami de Claude Viala, ayant exposé à la CDI qui sourit le magasin ouvert seulement la nuit et le dimanche, ouvert par Filliou à Villefranche-sur-Mer, participant à l'exposition Impact 1 à Céret et redéfinissant complètement le happening en réalisant, et j'en terminerai par là, le 16 juin 1966, l'exposition, enfin, la création théâtrale Personne, dans laquelle personne n'est admis à assister à la représentation. Merci.